Le troubadour moderne est de retour. Mackle revient avec ses amis et un album de folk fidèle à lui-même, baptisé Milk on the Rocks. Un disque qui parle de son amour pour le lait, mais aussi pour les gens qui l'entourent. On s'en boit une petite rasade avec le chanteur biennois. Bonjour Mackle.
Bonjour.
Le morceau phare du disque, Milk on the Rocks, énumère plein de noms de cocktails, mais c'est bien le lait sans glaçons, hein, on the rocks, qui est la star de ce disque. Pourquoi ?
Eh bon, je suis un buveur de lait depuis tout petit. Et puis, ouais, le lait, c'était aussi l'idée qui venait une fois quand je parlais avec mon graphiste. Et puis, lui, il me donne souvent des idées comme ça. Et puis, lui, c'est lui qui disait Milk on the Rocks. Et ça me frappait. Et puis, comme ça, je me suis mis une fois, je me suis penché là-dessus. Et comme je bois pas beaucoup d'alcool, je connais pas non plus ces drinks. Et puis, maintenant, j'ai une fois un peu regardé sur Google tous ces noms des drinks qu'il a. Ils sont formidables, quoi. Swimming pool, Bloody Mary, toutes des choses comme ça. Alors, j'ai essayé de jouer avec ça.
D'ailleurs, vous évoquez dans la chanson le White Russian, qui est un cocktail avec du lait. Et ça, non, ça passe pas non plus.
Non, ça fait juste du lait et des glaçons, rien d'autre.
Et puis, alors, après le lait, il peut aussi se décliner sous différentes formes. Le lait de chèvre, le lait d'amande, il y a le lait d'avoine. Ça va, on prend ça?
Oui, mais normalement, c'est du lait, voilà. Des vaches, quoi. J'ai déjà dit que déjà à l'âge de 6 mois, j'ai changé de ma mère à la vache, quoi. Et depuis, je reste là-dessus, quoi.
Mais c'est vraiment une boisson que vous prenez tout le temps.
Oui, bon, quand je vais faire des achats pour mes deux fils, toi et moi, c'est par semaine, je ramène à peu près 24 litres de lait à la maison. Alors je vais là où il a des cajons à 8 litres, sinon c'est trop pénible, quoi.
T'as jamais pensé acheter une vache?
Non, parce que ça, c'est du lait entier, et puis ça serait beaucoup trop. Il faut, si on prend du lait entier, c'est pas bon.
Et il n'y a pas que ça dans ce disque, évidemment. Il y a aussi plein d'histoires qui évoquent des anecdotes avec vos proches, souvent. Votre entourage est à ce point inspirant, ou c'est vous qui savez simplement observer?
Non, mais ça, c'est la vie en soi qui est très inspirant, quoi. C'est ça qui me donne plein d'idées quand je. Et évidemment que mes proches, ils sont souvent concernés, oui. Parce que je pense le plus que quelque chose te touche dans le sentiment, le plus c'est aussi probable que ça entre dans une chanson.
Et puis j'ai l'impression que dès qu'il vous arrive quelque chose, vous sautez sur votre guitare et vous composez quelque chose. C'est le cas?
Pas tout à fait. Il me faut. Alors ça peut arriver que je note sur mon iPhone des petits mots géniaux, des expressions qui me frappent ou des choses comme ça. Mais après, il me faut encore en plus. Moi, j'appelle ça un accouchement. Alors c'est comme une pression dans ma poitrine où je sens la créativité qui veut sortir. Et puis souvent c'est tôt le matin. C'est souvent quand je me réveille, quand peut-être que j'ai même en rêvant entendu une jolie mélodie ou quelque chose. Et puis là, c'est vraiment la décision. Est-ce que je me lève? Est-ce que je vais écrire maintenant ce que j'entends? Ou bien est-ce que je laisse passer cet oiseau et je prends là le prochain, quoi.
Musicalement, ce disque tourne autour de la folk, de la pop. C'est ce que vous avez toujours fait jusqu'ici. C'est assez brut. Il n'y a pas trop d'effet sur les instruments ou la voix. Est-ce que vous avez peur des machines?
Non, mais oui, je viens vraiment un peu de la musique très réduite, guitare et voix. Et c'est en fait ça qui me fascine le plus. La mélodie, ouais, qui est la voix de la mère, et puis encore le rythme, et puis les mots, quoi, ouais, c'est ça.
Évidemment, dans Mackle & Friends, il y a Friends et toutes ces personnes qui vous accompagnent sont toujours là. On les retrouve hein, avec aussi le violoncelle, avec l'accordéon. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est toujours des gens sur qui vous pouvez compter.
Oui, et puis ça donne aussi un peu notre profil, quoi, notre son typique, quoi. Ouais, c'est ça.
Mais tout le monde n'est pas. Il y a deux, trois personnes, deux, trois instruments qui sont interchangeables, si j'ai bien compris.
Oui, alors on a par exemple l'accordéon, c'était pour le deuxième disque, c'était Coralie Minder, ici de Moutier, qui nous accompagnait ou bien qui venait au studio avec nous. Maintenant, on a un très bon accordéoniste de la région de Zug, Fauflu. Mais ceux-là, ils viennent pas sur scène avec nous, mais ils viennent au studio avec moi-même.
Et vous avez jamais eu envie d'ajouter encore d'autres choses? Pour l'instant, vous êtes un peu sur cette ligne-là, mais est-ce que vous avez envie tout à coup de vous dire, tiens, si j'ajoutais un instrument un peu plus exotique?
Oui, alors on est en train justement de... On planifie maintenant un concert en janvier avec un orchestre classique de Vienne. Et puis là, justement, là, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre. Alors, on avait juste avant Pâques, avant que moi, je partais rejoindre ma femme qui était déjà là en Italie, le matin à 10h, on avait encore une réunion à 5h du matin. Ça m'a frappé. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Ave Maria. Je me suis un peu basé sur Bach, sur le Ave Maria de Bach. Et puis, bon, à 10h, je l'ai chanté à cette réunion avec le chef d'orchestre de classique et tout ça. Et puis, c'était droit adopté. Et puis, on va maintenant aussi faire ça. Et puis, eux, ils vont jouer un autre Ave Maria. Et puis, ouais, ça donne un programme comme ça. Et puis, est-ce qu'après, on aura aussi des violons, pas seulement le violoncelle, au studio pour le prochain album? Ça, on verra, quoi.
Une chose après l'autre, il faut pas se précipiter. Michael, on va écouter un premier extrait de cet album, on reprendra notre entretien juste après. C'est le titre Looks Like Paradise, le premier single qui raconte une balade en bateau vers l'île Saint-Pierre. Racontez-nous.
Ouais, bon, c'était en fait pas moi qui étais sur ce bateau, mais mon fils qui dormait là avec deux copains et qui se levait tôt. C'était une très belle journée en juin, je pense, très tôt. Et puis il allait sur l'île Saint-Pierre et puis les autres dormaient encore. Il faisait des photos et puis il m'a envoyé ces photos et moi j'étais déjà réveillé à la maison et puis ça m'a tellement frappé. C'était comme le paradis, quoi. Et puis comme mon fiston, il avait une période plutôt difficile, ça m'a... Ouais, c'était ça, cette chanson qui sortait droit, Looks Like Paradise. Ouais, ça a beaucoup à voir avec lui, oui.
Looks Like Paradise, Michael and Friends.
Hey man, what you sent me looks like paradise. Hey man, what you sent me looks so nice. Hey man, how did you get to this sweet place? Hey man, I lost you too, way too long ago, lost your praise. Where do the clouds go from where I stand? So many storms pass through the land. Again. Hey man, where's your dark side? Looks like it's all gone. Hey man, it feels so right in this sun. Hey man, you are strong now and you fly on your own. Hey man, I lost you too, way too long.
Une balade idyllique dans nos contrées, c'était Looks Like Paradise, morceau issu du nouvel album de Michael and Friends, Milk on the Rocks. Nous sommes toujours avec le frontman pour parler de cette LP Too Folk Pop Americana. Michael, cet album est sorti à peine un an après Last Good Sign, votre dernier disque. Vous enchaînez, dis donc, ça va vite.
Ouais, en fait, moi, je me vois plus comme écrivain de chansons que comme musicien, quoi. C'est ça ma grande passion, et puis voilà. Et j'avais le grand plaisir aussi l'été passé d'aller une semaine en Nashville pour vraiment faire un singer-songwriter retreat. Et pour moi, ça c'était un autre paradis parce qu'il avait peut-être 60 écrivains de chansons, singer-songwriter, et puis on travaillait ensemble. C'était très intéressant.
Et du coup, vous écrivez tout le temps et vous avez 250 000 chansons que vous pourriez sortir, c'est ça?
Oui, entre deux, je suis autour des 310 chansons maintenant. ils ont des numéros, quoi. Et puis, mais je peux pas tous utiliser, mais il y en a quelques-unes qui sont bons, qui s'offrent pour mettre sur un album, quoi.
Parce que ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant que vous composez, ou en tout cas vous écrivez des chansons, mais ça fait que depuis 2020 que vous sortez des albums et que vous êtes sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ?
Ouais, bon, d'abord j'ai commencé quand j'étais adolescent de collectionner des chansons. Je les ai copiées, puis je les ai chantées pour comprendre ce qui est bon dans une chanson. Et après j'ai rencontré, quand j'étais pour 2 ans, j'étais au Canada, j'ai travaillé comme médecin là-bas. Et puis j'habitais ensemble avec un Polonais. Et puis avec lui, il était musicien. Et puis avec lui, il m'a offert une guitare. Et puis on a commencé il avait une autre guitare à lui aussi. Et puis on jouait ensemble. Et puis là, j'ai commencé d'écrire des chansons. Là, c'est la première chanson qui est cantée, quoi. Et puis depuis, j'ai toujours fait, mais c'était plutôt un peu comme écrire un journal. Et puis comme je pense beaucoup de gens qui font quelque chose pour la première fois, on a un peu honte de le montrer aux autres, on a peur qu'ils aiment pas. Et puis ouais, moi j'étais très discrète avec mes chansons, mais c'était, pour moi c'était depuis le début toujours comme une découverte, ce qui sort de moi-même, c'était très intéressant, juste ça. Et après, une fois que j'ai compris que ça plaît aussi aux autres, après on a commencé de faire plus pour aller sur scène.
Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, qui vous a poussé à vous dire « Ah bah tiens, cette fois je vais partager ».
J'avais fait beaucoup de sport et j'ai surtout travaillé comme chirurgien beaucoup. Hein. Et puis après, j'avais une hernie discale et ça m'a vraiment mis pour 3 mois à plat sur le dos. Et puis là, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Et puis, alors d'abord, remplacer le foot et le hockey sur glace par la musique, ça c'est une chose qui marche mieux jusqu'à partir d'un certain âge. Et puis après, c'est aussi ma femme qui m'a dit « mais fais enfin quelque chose avec cette musique ».
Et vous vous amusez même à publier des vidéoclips pour dire que vous allez jusqu'au bout du processus. Pour Milk and on the Rocks, vous êtes allé boire du lait en vieille ville de Bienne. Racontez-nous.
Oui, ça c'est. Oui, on a surtout. Oui, ça c'est. J'avais une chef en chirurgie de la main à Listal. Elle était championnate mondiale de 50 mètres en crawl. Je veux dire, nous les médecins, on travaille comme des fous jusqu'à l'âge de 40 ans et après on commence de réaliser les rêves, vous voyez. Et puis tout, on fait par principe tout pour le plaisir. Et puis ces vidéos de jouer, c'est, ouais, je sais pas si vous l'avez vu, mais Milk on the Rocks, c'est toute une histoire. Et puis ça nous faisait juste beaucoup de plaisir de faire ça, quoi. Et puis il a d'ailleurs aussi une de nos infirmières de la Chirmain de Moutier qui nous rejoignait. Elle jouait là, celle qui mixait le Milk on the Rocks finalement. Ça, c'est une affaire, c'est Liliana de Moutier, quoi.
Ah, c'est bien, tous les anciens collègues qui participent. En tout cas, on sent effectivement que vous vous amusez beaucoup. Il y a beaucoup de sourires.
Oui, oui, je fais ça juste pour ça. À chaque fois que quelqu'un me dit « mais maintenant tu dois répéter plus, tu dois faire ci et ça pour avoir du succès », j'ai dit « mais non, je ne vais rien faire, je ne suis pas obligé, je fais tout ce seulement pour le plaisir parce que j'ai déjà un job et puis il ne me faut pas un deuxième job ».
L'album a été verni au Kreutz de Nido. La suite pour vous maintenant, qu'est-ce que c'est ?
Bon, on joue encore début septembre au First Friday. On a encore quelques petits concerts sur des petites scènes au Oberland, mais je suis en contact permanent avec le studio, avec TJ Giger, et puis c'est déjà le 5e album où on est en train de un peu regarder les chansons, quoi.
C'est déjà en train de planifier le prochain, quoi.
Déjà au moins 7 ou 8 chansons qui sont des candidats pour aller là-dessus, ouais.
Bon, on ne perd pas de temps, vous l'avez compris. Dépêchez-vous d'écouter ce disque parce qu'après, il sera déjà has-been pour cet été. Merci beaucoup, Michael.
Oui, merci à vous.
Le boss de Michael and Friends qui a publié un album en avril baptisé Milk on the Rocks, par amour du lait. On se quitte avec un nouvel extrait, c'est le titre Goldige Refik, La cage dorée. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce morceau, Michael ?
Oui, c'est un peu... ce que je pense plein de gens en Suisse expérimentent, qu'on est bien, que tout va bien, on est dans une situation financière bien, mais on n'est pas vraiment libre, on se sent un peu enfermé. Et puis ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui est sur scène, qui a du succès, mais en fait il attend une fille qu'il aime bien et puis elle vient pas ce soir, et puis voilà, et il dit voilà, je te laisse partir et moi je reste là dans ma cage dorée.
Ah oui, c'est tout ce que vous voulez pas, quoi.
C'est ça.
Quel Dicker et Fig, Michael and Friends.
On dit là des tirs, vite faut hier, quand n'est met, au d'un crotté. Et là des tirs, vite faut hier, vite faut met. Et là des tirs, vite faut hier, quand n'est met, au d'un crotté. Et là des tirs, vite faut und hab Sorg zu dir. Du bist die Schönste, wo ich je hab gesehen. Und deine Freiheit, wo du lebst, liebe ich sehr. Mitternacht ist vorbei, doch dich seh ich nicht. Der letzte Song hab ich geschrieben, nur für dich. Wo bist du hier? Hab dich gestern noch grad gesehen. Sorg zu dir.